Bienvenue dans Champ d'Action, le podcast des éditions Terre Vivante qui vous donne les clés pour rendre votre quotidien plus écolo. Champ d'Action, ce sont des discussions avec des femmes et des hommes engagés et passionnés qui vous donneront, on l'espère, envie d'élargir vos horizons. Dans cette saison 3, nous serons plusieurs à tendre le micro. Aujourd'hui, c'est moi, Cléa, autrice et coach en cuisine bio et végétarienne, qui vous invite à nous suivre. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je reçois Cyril Bouvet et Lionel Scaturo. Cyril et Lionel sont les auteurs du guide des plantes sauvages en montagne, découverte, identification, cueillette et usage aux éditions Terre Vivante. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, je vous propose de nous parler de vos parcours respectifs et puis de ce qui vous a amené à écrire cet ouvrage ensemble, dédié aux plantes de montagne.
La bonne question.
Alors Cyril, d'abord.
Pour moi, en fait, je suis accompagnateur en montagne, herboriste, éducateur nature et agroécologiste. Donc finalement, avec Lionel, on a été amené à se rencontrer parce que je travaillais dans une structure, dans un écomusée. Et Lionel faisait partie du bureau de l'association qui gérait le lieu. Donc on s'est rencontrés comme ça, et puis après on a fait des sorties plantes ensemble, dans le cadre de ce lieu. Et puis Lionel a émis l'idée d'écrire un livre. Il est venu me voir, il nous a parlé, et puis vu qu'on était tous les deux, on va dire, sur des pratiques complémentaires, et qu'on était très attirés par les plantes et leur usage, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose là-dessus.
Et Lionel, alors je vous passe la parole pour vous présenter, un petit peu expliquer votre parcours en quelques mots.
Eh bien, donc mon parcours... Pour faire simple, en tout cas celui qui tourne autour des plantes, je suis paysagiste. J'ai fait une formation en ethnobotanique pendant 3 ans avec François Couplan. Et je me suis installé, au départ je venais du sud, donc de Marseille. Je suis venu en Haute-Savoie, dans les Bauges. Je me suis installé, j'ai monté donc une association qui s'appelle l'École des saveurs des bois pour parler des plantes sauvages comestibles. Et donc ce que disait tout à l'heure Cyril, effectivement on a eu l'occasion de se rencontrer. Ça faisait longtemps que j'avais un projet, j'avais envie d'écrire un livre. Je ne me sentais pas de le faire seul, donc je me suis dit, il me faut un partenaire. Donc Cyril est arrivé au bon moment, et voilà. Donc après, ça a bien fonctionné entre nous. Voilà, alors l'idée, c'est vrai que l'idée de faire ce livre, c'était de faire un truc qui n'existait pas déjà. Donc c'était de faire un bouquin dans lequel on allait pouvoir trouver toutes les informations possibles qu'on puisse avoir sur les plantes, enfin sur une plante donnée en tout cas. Et comme ça, au moins, j'étais à peu près sûr de mon coup. Moi, perso, je ne connaissais pas des livres écrits comme ça auparavant. Je ne crois pas que ce soit beaucoup fait, de toute manière, parce que je ne connais pas tous les livres.
Quand vous parlez de tous les aspects autour des plantes, qu'est-ce que ça représente finalement? On pense à l'aspect médicinal, à la cuisine, il y a d'autres choses aussi?
Oui, bah déjà il y a l'aspect aussi tinctorial, artisanal, agricole, ludique, mellifère, et puis aussi sur l'écologie de la plante, des spécificités sur son biotope. Et puis on s'est dit, tiens, l'idée c'est finalement d'en faire un outil aussi... de sensibilisation, d'éducation à la nature au sens général du terme, donc apporter des éléments qui puissent donner des outils pratiques pour approcher la plante. Donc c'est pour ça qu'aussi on traite un petit peu de biologie végétale, on traite de le métabolisme de la plante, de botanique élémentaire, de voilà, finalement tout ce qui tourne autour de la plante qui permet de vraiment inviter à aller à la rencontrer avec les bons éléments de connaissance et puis après aussi des pistes pédagogiques qui invitent à jouer avec, à la sentir, à, voilà, différentes manières d'aller vers la plante finalement.
Ouais, en tout cas, en tant que lectrice et randonneuse, moi c'est vrai que ça me permet de toucher du doigt un univers beaucoup plus large que simplement celui que j'avais en tête en allant à leur rencontre jusqu'ici, donc merci. On va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, avant d'aller cueillir des plantes, je pense qu'il y a peut-être certains endroits ou certaines plantes qui sont interdites à la cueillette. Est-ce que vous pouvez nous dire comment savoir si on peut cueillir une plante?
Bien, la première chose déjà, c'est peut-être de se renseigner avant de partir en cueillette, de se renseigner sur le massif sur lequel on est pour ne pas faire de bêtises. Donc, si des plantes sont interdites, ben, il faut le savoir. Après, quoi qu'il en soit, il y a certaines plantes qui sont aussi interdites à la cueillette au plan national. Donc, c'est bien de partir avec certains éléments. Si on veut aller cueillir une plante qui est juste contrôlée, ben, il faut savoir combien de brins on peut cueillir. Donc voilà, ça c'est la première des choses, histoire de respecter le lieu. Après, il y a aussi autre chose. Des fois, les cueillettes ne sont pas interdites. Mais si une station de plantes est trop petite, eh bien, on va éviter d'en ramasser. Voilà, si il y a que quelques pieds ou quelques plantes par-ci, par-là, peut-être qu'on va les laisser tranquilles. Ils vont mieux se diriger vers une grosse station qui fait plusieurs mètres carrés, voire peut-être un champ. C'est top, ça. Voilà, mais on va éviter de cueillir s'il n'y a pas de spécimens, ou peu de spécimens, en fait. S'il y a peu de spécimens, on va éviter de cueillir aussi. Enfin, cela dit, quand je fais mes stages, plusieurs idées, en fait, c'est de dire on cueille maximum un tiers des plantes sur place, mais il y en a aussi qui parlent de un cinquième. Et là, un cinquième, c'est vrai que c'est top, comme ça, on en laisse pour les animaux, on en laisse pour la nature, on en laisse pour le prochain, hein, qui voudra peut-être cueillir la même plante. Et donc, si nous, on ramasse un tiers du secteur, ça veut dire qu'il reste deux tiers, mais si le prochain qui vient, il ramasse aussi un tiers, à la fin, rapidement, on n'aura plus de plantes sur le lieu. Donc, moins on en cueille, mieux c'est. Et bon, le mieux, c'est de cueillir juste ce dont on a besoin, finalement. Si on veut faire un repas, on ne va pas cueillir 10 kilos de feuilles pour alimenter le village, ce n'est pas la peine. On cueille son repas et puis après, on va le cuisiner. Ou le préparer pour faire des tisanes ou des macérations et autres produits médicinaux.
Est-ce qu'il y a des... Oui, vous l'avez dit, il y a des plantes qui sont interdites sur le plan national à la cueillette. Ce sont lesquelles, par exemple ?
Par exemple, dans notre ouvrage, on va parler au niveau national, ça va être la drosera, qui est une plante qu'on trouve en tourbière. Donc là, c'est vraiment une plante à protéger de manière urgente, quoi, parce qu'il y en a finalement assez peu.
On la touche avec les yeux.
On la touche avec les yeux. Après, je pense aussi à des plantes comme l'arnica, les delveis, la gentiane, celle qu'on appelle les gentianes bleues, ou la gentiane à col ou des Alpes, gentiane des Alpes, qui sont ces petites plantes en forme de cloche qu'on trouve dans les pelouses alpines, un peu emblématiques finalement de la montagne, et qui autrefois ont été utilisées, mais qui finalement sont des plantes pas très courantes et qui sont pas impératives dans leur usage, quoi. On peut les laisser volontiers là où elles sont, ça sera beaucoup mieux en photo.
Disons, on en parle dans l'ouvrage parce qu'on trouvait important de savoir. Je veux dire, c'est bien que ce savoir se transmette encore, mais c'est vrai qu'à côté de ça, bon, on précise également qu'il faut éviter de les cueillir, quoi. Bon, c'est pas parce qu'on sait à quoi elles ont servi autrefois. Voilà, l'idée c'est que ça se perde pas, ce savoir. Mais voilà, on trouvait important d'en parler, justement, pour pas que ça s'oublie et qu'on sache.
Alors maintenant qu'on s'approche et qu'on se dit qu'on a le droit de cueillir, quelles sont les clés d'identification principales dont vous vous servez, vous, dans cet ouvrage ?
Alors dans l'ouvrage, en fait, on a utilisé comme démarche de se mettre à la place d'une personne dans un milieu naturel, un randonneur, et qui voudrait connaître une plante qu'il a devant lui qu'il ne connaît pas. Donc on a essayé d'être plutôt vulgarisateur. Donc la première démarche, c'est déjà de savoir identifier le milieu dans lequel on est et à quel étage de végétation. Donc à l'étage collinéen, montagnard, subalpin et alpin. Déjà identifier l'environnement dans lequel on est, parce que les plantes vont être reliées souvent à un milieu bien spécifique et pour certaines même à un étage spécifique. Et ensuite, une fois qu'on a identifié cet aspect-là, s'approcher plus de la plante. Et nous, on a utilisé une manière de faire qui est plutôt, on va dire, pragmatique, sensorielle, avec un moyen d'identifier par la couleur des fleurs ou la forme des feuilles. Donc après, c'est des photos, c'est visuel. Donc les flores, on va dire, habituelles en botanique, c'est quelque chose d'un peu plus pointu, qui fonctionne par des questions oui-non, un aspect un peu dichotomique, mais qui sont vraiment réservées à des personnes qui sont déjà motivées, qui commencent à avoir du vocabulaire. Et là, on s'est dit, on va utiliser cet aspect-là qui est plus pratique.
Et plus accessible à tout le monde. En fait, notre idée, c'était aussi de faire un bouquin qui soit accessible aux débutants comme aux confirmés. Donc c'est pour ça qu'on démarre avec une approche très simple, accessible à tout le monde, et ensuite on donne suffisamment d'informations pour qu'une personne qui connaisse déjà la plante puisse encore apprendre des trucs sur la plante.
Voilà, après c'est le contenu des fiches plantes en fait, oui, qui va aller assez loin dans l'apport d'informations, mais aussi des choses pratiques, des recettes, des activités, des devinettes, des anecdotes. Voilà, on a essayé d'avoir une approche assez large.
Ouais, on va vraiment à la rencontre de la plante dans sa globalité à chaque fois. En matière de cueillette, vous présentez les bons principes et puis aussi évidemment les dangers des cueillettes sauvages. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu les grandes lignes ?
Oui, bien sûr. Il y a déjà les dangers, on pense tout de suite quand même aux plantes toxiques, forcément, dès qu'on commence à vouloir utiliser des plantes sauvages, d'où l'importance d'apprendre à identifier correctement la plante et de rentrer dans un minimum de démarches botaniques si on veut ne pas faire, comment dire, avoir des gros problèmes, malheureusement, un jour ou l'autre. Donc déjà, aussi d'apprendre à connaître les grandes plantes toxiques. Donc dans le livre, on fait un zoom sur 15 plantes en montagne qu'on a de fortes chances de rencontrer. Donc avec des informations un petit peu sur leur identification et puis aussi les molécules toxiques qu'on peut trouver à l'intérieur et comment les éviter. Voilà.
Après, à chaque fois qu'on parle de plantes aussi, on parle de plantes avec lesquelles on puisse se tromper. Donc ça aussi, c'est une approche qui est assez intéressante. Bon, on était peut-être un peu limité par la place, parce qu'on aurait peut-être bien aimé faire des fiches qui pousseraient un petit peu plus loin là-dessus. Mais voilà, à chaque fois, on parle des risques de confusion. Sur les risques de confusion, les plantes ne sont pas toujours toxiques. Donc ben, ça, c'est tant mieux, parce qu'il y a des fois des plantes qu'on risque de confondre mais avec des plantes qui ne feront pas de mal, voire qui seront aussi bonnes. Donc c'est pas gênant, mais bon, voilà. Après, sur les risques de cueillette, ça peut être un problème, effectivement. Après, risque de cueillette, si on n'identifie pas suffisamment bien une plante, on peut cueillir aussi une plante qui est contrôlée, une plante qui est interdite. Donc voilà, donc on a tout intérêt à bien maîtriser notre sujet, finalement, avant de cueillir. Il y a toute une approche. Je veux dire, on ne cueille pas, déjà, si on n'est pas sûr à 100, voire 150%, quoi. Si on voulait exagérer un peu, voilà, si on n'est pas sûr de nous vraiment, on ne cueille pas. Donc ça, aujourd'hui, la cueillette est quand même une pratique qui est plutôt ludique. Je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens, en tout cas, qui ont besoin de cueillir pour vivre, quoi qu'il y en a qui seraient très bien avec. Mais bon, la plupart des gens qui partent en cueillette n'ont pas besoin de cueillir des plantes pour vivre, ni pour se soigner. Donc, il faut que ça reste ludique, il faut qu'on respecte la nature. Et voilà, sur les bons principes, ça c'est important de respecter ça. Donc, on ramasse une plante dont on est sûr. Après, on va éviter de cueillir aussi en bord de route, on va éviter de cueillir dans les terrains pollués. Là où on voit qu'il y a des épandages de lisier, c'est pas fantastique non plus. Enfin, dans les grandes villes où c'est trop pollué, c'est un peu compliqué.
On reste en montagne, là.
Voilà, ouais, c'est
bien. Dans les pâturages très fréquentés aussi.
Ouais.
C'est sûr, donc là, c'est le choix, les bons principes de la cueillette sauvage, le choix du site.
Vous parliez tout à l'heure des différents étages de végétation. Est-ce qu'il y a des particularités des plantes qui poussent en très très haute altitude?
Ah oui, il y a des particularités. Donc là, on touche à l'écologie végétale, en fait. Et donc, ça, c'est la science qui a étudié cet aspect-là. Et donc, il y a énormément de caractéristiques reliées à ces plantes d'altitude qui, finalement, sont obligées de s'adapter à des fortes contraintes liées à la montagne. Donc, le vent, le gel, la neige, le froid, l'érosion, c'est-à-dire les mouvements. Des fois, ils sont sur des terrains très mouvants, voilà, ce genre de choses. Et donc, la plante, souvent, a développé... Alors, dans le livre, on en parle un petit peu. Hein, ça peut être un petit duvet qui va faire une couche isolante ou qui va protéger des rayons solaires qui, en altitude, sont beaucoup plus agressifs.
On pense à l'Edelweiss, par exemple.
Par exemple, l'Edelweiss, ouais. Ou alors les gentianes alpines en forme de cloche bleue, là. Donc, elle, il y a en même temps un moyen de concentrer la chaleur, donc la forme de la fleur, en fait. La couleur aussi, elles vont développer des anthocyanes, qui sont des molécules qui vont permettre de rendre moins agressifs les UV du soleil. Et puis en même temps, c'est aussi pour attirer les pollinisateurs. Voilà, les différentes adaptations de la flore alpine, dont on parle un petit peu dans le livre.
Vous êtes allé un petit peu à la rencontre de manière littéraire de nos ancêtres, ou en tout cas d'anciens qui parlent des plantes dans ce livre. Ils avaient une réelle proximité, ils connaissaient leurs usages médicinaux, comestibles. C'est quelque chose qu'on ne sait plus du tout, alors que ce sont des plantes qui sont riches en nutriments, qui sont gratuites, disponibles, accessibles à tous. Pourquoi est-ce qu'on ne sait plus rien de tout ça, finalement? Et comment est-ce qu'on pourrait un peu reconnecter à tout ça?
Bien, pourquoi on ne sait plus rien? Alors, a priori, ça date d'il y a un petit moment, quand on a commencé à ramener des plantes exotiques en France. Donc, tous les riches bourgeois et autres personnes qui avaient de quoi se payer un navire et des jardiniers ont commencé à cultiver ces plantes. Mais l'idée, c'est que tous les paysans qui avaient autour, qui se nourrissaient en général de légumes rustiques, bien français, et de plantes sauvages, se sont mis à vouloir manger ces plantes et ces fruits exotiques. Petit à petit, après, on a eu la révolution industrielle, donc de plus en plus de paysans sont allés dans les villes, ont perdu leurs pratiques anciennes, donc les plantes sauvages, c'était plus intéressant, ils continuaient peut-être toujours à cultiver, mais bon, les plantes sauvages, ils en mangeaient de moins en moins. Et gentiment, en fait, on a oublié toutes les plantes qu'on mangeait. Alors, le réel oubli daterait peut-être d'après-guerre, hein, finalement, parce qu'avant-guerre, à mon avis, on en mangeait encore beaucoup. Et voilà, et puis maintenant, ben, on se dit, ben mince, c'est dommage que tout ça se soit perdu. Donc on essaie, enfin en tout cas, il y a une poignée de gens qui essaient de retrouver tous ces savoirs perdus. Heureusement, on a des écrits. Quelques-uns, il y a des personnes qui animent des stages. Nous, maintenant, on se met à transmettre ce savoir qu'on a pu apprendre. Et voilà, quoi. Donc, il faut continuer.
Oui, puis je pense qu'aussi, c'est relié à une forme de rupture de notre société avec la nature en général. On vit beaucoup dans un monde artificiel. Tout ce qu'on mange, on trouve au magasin. Donc, finalement, c'est aussi lié à une société qui a coupé avec la nature. Donc, faut pas être étonné d'avoir perdu ces savoirs qui se transmettaient, finalement, de génération en génération. Il n'y avait plus ce besoin et aussi un environnement à l'époque qui était là, autour. Maintenant, il faut aller le chercher quand même souvent. Donc, je pense que c'est relié aussi à ça.
Donc, pour reconnecter, vous conseillez de lire votre livre, d'aller en rando, de cueillir des plantes, de les utiliser et puis peut-être de participer à des stages, c'est ça l'idée, ouais. Vous en organisez vous-même
ouais.
En Savoie, Haute-Savoie.
Oui. Haute-Savoie, toi tu es en Savoie toi ?
Moi je suis en Savoie.
Toi tu es parti à Savoie.
Mais bon, on est pas loin.
Ouais, on n'est pas loin, mais on est un peu limitrophe. Mais oui, Savoie, Haute-Savoie, donc on organise des stages. Ouais. Moi c'est plus sur les plantes comestibles. Cyril, donc ce sera plus sur les plantes médicinales, mais autre chose aussi, d'autres trucs. Moi c'est vrai que je me cantonne plus à ce qu'on. Au côté manger. Il faut préparer de la nourriture.
C'est une bonne approche.
Moi, j'aime bien,
la
j'aime
cuisine.
Bien ça. Après, j'aime bien ce côté-là parce que. Pour moi, c'est plus facile finalement de me nourrir avec les plantes que de faire mes propres remèdes. Alors que de manger, je trouve que c'est tellement accessible. Enfin, c'est pour ça que je suis allé vers cette spécialité-là, hein, puisque même dans les cours chez François Couplan, on apprenait aussi le côté médicinal. Mais j'ai jamais accroché autant que sur le côté comestible, sur la préparation de cuisine. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé avec lui et pas d'autres personnes, parce que lui, il était vraiment spécialisé là-dedans. Et voilà, cette approche-là qui, je veux dire, quand je pars au travail, des fois, je ramasse un bouquet de berce, berce commune, et puis je reviens à la maison, on mange la berce commune. Quoi. Et puis voilà, personne n'a cultivé, ça a coûté de l'énergie à personne. Je me suis juste penché, j'ai pris mon petit couteau, coupé mes feuilles, puis le soir, on se fait un gratin, on se fait peu importe, une tarte avec ses feuilles, et c'est super. Donc voilà, ça j'aime bien, ce concept.
C'est vrai qu'une personne qui veut apprendre, progresser, ça aide vraiment beaucoup de sortir avec des personnes qui connaissent déjà le sujet et de participer. Ça peut être des balades juste de 1 heure ou 2 jusqu'à un stage à la journée ou de plusieurs jours. Donc nous, dans le cadre de l'ouvrage, on propose des stages à la journée et un stage de 2 jours à partir de juillet là jusqu'en octobre. Un stage de 2 jours en juillet et puis août, septembre, octobre, un dimanche par mois.
Bah, tant qu'on y est, donnez-nous l'adresse, comment faire pour avoir les infos sur ces stages.
Eh bien, donc, c'est sur nos sites internet respectifs. Donc, pour moi, c'est naturalp.eu. Et donc, après, en page d'actualité ou sur l'onglet Herboristerie et Plantes Sauvages, il y a les informations. Sinon, sur le site internet de Lionel.
Moi, aussi. C'est donc l'École des Saveurs des Bois. Tout simplement, vous tapez ça sur internet et vous tombez sur ma page. Après, il faut aller sur ma page stage. Donc, il y a les stages que je propose. Et puis, il y a ces nouveaux stages. Maintenant, qui sont, enfin, moi, je trouve bien, parce que c'est vrai que, donc, moi, j'aime beaucoup mon côté comestible, hein, vous aurez compris. Mais j'aime beaucoup le concept où, justement, on associe nos savoirs pour faire un stage. Ça, c'est chouette, quoi. Donc, on a fait un stage dimanche. Et d'abord, moi, je me suis régalé, quoi, d'être avec Cyril. Et les gens qui étaient avec nous, a priori, ça s'est bien passé, quoi.
Donc, une belle invitation à venir découvrir à la fois les Bauges et le savoir que vous pouvez partager tous les deux.
Tout à fait, ouais.
Super. Alors, pour chaque plante, dans le livre, on trouve des explications sur leur pouvoir médicinal, des usages culinaires. Je vous propose qu'on donne quelques exemples parce que c'est vraiment ce qui nous parle le plus. Peut-être étage par étage ou en partant du plus accessible. Moi, je pensais à l'ail des ours qu'on connaît quasiment tous et qu'on a tous vu au moins une fois autour de chez nous, je pense.
Oui. Enfin, surtout ceux qui sont à la campagne.
Mais ça dépend où on est, ouais. Mais...
Oui, oui, non, c'est vrai que l'ail des ours, effectivement, maintenant, ça devient un peu à la mode. Et c'est très bien. Enfin, quoique, il y a quand même des endroits où l'ail des ours devient une denrée rare. Mais pour le moment, nous, dans les Bauges, l'ail des ours, on n'en manque pas. Donc, il y en a beaucoup. Donc, c'est très bien. Et en tout cas, nous, ça nous aide, ça nous rend service. On aime bien, moi, j'adore ça, là, pour manger l'ail des ours.
Qu'est-ce qu'on en fait déjà par exemple en cuisine hein, alors, ça paraît évident.
En cuisine, en premier, ce qu'on connaît tous normalement, c'est le pesto d'ail des ours. Mais en fait, on n'est pas obligé de faire que ça. Quoi. Enfin, j'adore hein, le pesto d'ail des ours, c'est peut-être un de mes préférés. Quoi qu'il passe peut-être après celui de plantain, que j'adore aussi. Et donc l'ail des ours, déjà quand on le cuisine, si on veut le faire en pesto, on va éviter de le mixer. c'est bien de le hacher. Alors, je fais partie des gens qui sont pro-hachage. Donc, on mixe pas l'ail des ours. Il y a plein de plantes qu'on peut mixer, mais pas l'ail des ours.
Pourquoi ? Ça donne une mauvaise texture ou...
Ça... Non, non. En fait, le pesto va devenir super fort. Quoi. Et là, à ce moment-là, ben, on mange une gousse d'ail, c'est pareil. Quoi. Donc là, le concept, quand on le hache, on sent vraiment la plante, on sent la verdure. On sent l'ail, c'est très bien, mais on a un petit mix et un équilibre surtout qui est parfait. Donc voilà, si on ne lâche pas, ben, y a que l'ail qui va ressortir. En fait, on va exploser les molécules. Je ne sais pas comment ça se passe exactement dedans, mais c'est pas bien, ça marche pas bien.
C'est un bon conseil, d'accord.
Et après, on peut aussi le faire cuire, hein, parce que la cuisson de l'ail des ours, c'est super bon. Vous hachez un petit peu d'ail des ours, vous le faites cuire, mettez ça dans vos pâtes, hein, pour faire simple. C'est super bon, c'est...
Et on consomme pas que les fleurs, on peut prendre aussi...
Non, alors là, je parlais des feuilles.
On consomme pas que les feuilles, pardon. Oui, on peut aussi consommer les boutons floraux.
Oui, les boutons floraux, les fleurs et les bulbes. Tout se mange. Alors bon, les bulbes, c'est dommage. Le problème, c'est qu'on déracine une plante, hein, si on enlève les bulbes. Alors si on est sur une station énorme, bon, pourquoi pas en prendre quelques-uns. Mais bon, cela dit, moi, j'en cueille jamais, des bulbes. Les feuilles sont tellement bonnes, de toute manière, c'est peut-être pas utile de cueillir les bulbes. Après, les boutons floraux, bien sûr, on peut les mettre au vinaigre. On fait des genres de... Des pickles, non ?
Ouais, je crois que c'est pickles, ça. Ouais.
Un peu comme des capres, en fait.
Voilà, mais un peu comme des capres. Ouais. C'est super, super bon, franchement. Et puis, ça nous permet de les conserver. Ça, c'est chouette, pouvoir les conserver. Et, ou alors, on peut simplement mettre un fond d'huile, les faire revenir à la poêle. C'est super aussi. Les fleurs, ben, en déco de salade, c'est parfait. Ou en déco de pesto, même. Hein, ça donne une petite couleur blanche au pesto, ça change. Pesto avec des fleurs, c'est chouette. Et puis, les feuilles cuites, j'ai dit ? Oui, je crois que j'ai dit. Donc, c'est parfait.
C'est déjà pas mal. Et au niveau plutôt médicinal, est-ce qu'il y a des choses à dire sur l'ail des ours ?
Oui, il y a des choses intéressantes, notamment ses vermifuges, au niveau de ses propriétés. Et puis on sait que c'est un protecteur cardiovasculaire. Donc finalement, rien que déjà au niveau alimentaire, on profite aussi d'une part de ses vertus. Après, on peut le prendre en poudre, on peut en faire un petit sel aux herbes aussi. Et puis c'est un dépuratif aussi. Donc le prendre en cure au printemps.
D'une pierre de coups. Première plante.
Après le fromage de l'hiver, c'est bon si on se fait des cures d'ail des ours, c'est bien. Ça tombe
bien. Bon, c'est pas pour rien.
Avec le boulot aussi, c'est bien. Sève de boulot.
Ouais, associé à la sève de boulot, associé au bourgeon de cassis, voilà, ce genre de choses. Là, on est déjà sur des bonnes plantes dépuratives printanières.
Et facile d'accès pour le coup.
Ouais, assez facile d'accès. Ouais. Ouais.
Ok. Le bouillon blanc, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Peut-être la décrire parce que tout le monde ne la connaît pas, cette plante.
C'est une très belle plante, comme un chandelier, qui va avoir des belles feuilles cotonneuses, assez grosses, et qui va faire une inflorescence en épi avec des belles fleurs jaunes. Et notamment, les anciens utilisaient finalement ce long épi séché pour en faire des... Comment on appelle ça ?
Des cierges.
Ouais, des cierges. Mmh. Donc, ils le mettaient dans la graisse, et puis finalement, ils l'utilisaient comme un cierge.
Et on l'appelle le cierge de Notre-Dame, ouais, également. Ouais. Après, bon, les noms, différents noms, des fois, ils peuvent évoluer d'une région à l'autre.
Et donc, au niveau médicinal, les fleurs, donc on cueille là, justement juste la fleur, et souvent, c'est intégré dans les mélanges antitussifs, pectoraux. Ça amène de la couleur, ça a une action antitussive. Il faut juste bien le filtrer pour éviter les petits poils problématiques qui peuvent être irritants à l'usage. Voilà, au niveau de son usage. Après, je sais qu'on utilise aussi ses feuilles en cataplasme. Je ne me souviens plus des vertus, mais je sais que c'était une pratique ancienne dans le lait. C'était bouilli dans le lait, alors c'était peut-être à des fins cicatrisantes, enfin, je ne me souviens plus.
Et est-ce qu'on le cuisine, celui-là, le bouillon blanc ?
Non, mais on peut utiliser ces fleurs. Ces fleurs en tisane ont un petit goût, alors après des fois il faut le chercher hein, quand on essaie de parler de goût qui se rapproche de quelque chose qu'on connaît. Mais a priori, ça se rapprocherait un peu de la tarte aux pommes, ceux qui ont un palais assez fin... pourraient trouver dans leurs fleurs un petit goût de tarte aux pommes. Voilà.
C'est pas trop mal.
C'est pas trop mal, mais bon, c'est assez discret, c'est assez léger.
D'accord.
Il faut avoir le palais fin.
Très bien. Est-ce qu'on peut parler de la carotte sauvage ? Pour le coup, qu'il est facile de confondre, en tout cas, celle-ci.
Ouais, ouais. Alors, dans la famille de la carotte, qui est la famille des apiacées, anciennement, on parlait de famille de ombellifères, due à leurs fleurs en ombelle.
On dit plus ça, maintenant ?
Non, maintenant on parle d'apiacées parce que il y a des botanistes qui ont changé tous les noms. C'était trop simple, je pense, ombellifères. Non, mais en fait, ça vient parce que le plus gros représentant de la famille, c'est un apium, et donc on appelait ça apiacées.
Ah, il y a beaucoup de plantes qui se ressemblent, en fait, dans cette catégorie-là.
Oui, il y a beaucoup de plantes qui se ressemblent. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que donc, dans cette famille, on est des plantes poilues et des plantes glabres. Donc, des plantes glabres sont des plantes sans poils. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes mortelles de cette famille sont glabres. Donc déjà, si on voit une plante avec une ombelle, des feuilles très découpées, très divisées, qui ressembleraient donc à de la carotte, ou autre, hein, en fait, à partir du moment où il y a des poils, déjà, bon, on sait qu'on n'a pas de risque de se tuer, hein, parce que les plantes mortelles de la famille sont sont très toxiques. Quand on parle de plantes mortelles, ça veut dire qu'elles vont nous faire mourir avec peu de matière.
C'est finalement la ciguë, par exemple.
Voilà, on a la grande et petite ciguë, on a la ciguë véreuse, on a le nant de safrané. Tout ça, ce sont des plantes qui sont mortelles à petite dose et qui ont cette particularité de ne pas avoir de poils. Donc, notre carotte a des poils. Ça veut dire que peut-être, on pourrait tomber sur une autre plante toxique qui serait poilue, comme par exemple, c'est le cerfeuil des fous, qui est poilu et toxique. Mais à la limite, j'ai envie de dire, bon, on ne va pas en mourir. Hein, après, il vaut mieux pas la manger, hein, mais il vaut mieux pas manger le cerfeuil des fous, qui porte bien son nom.
On se demande ce qui va nous arriver.
Voilà, on se demande ce qui va nous arriver. Donc, bon, ma foi, si on reste sur la carotte, dans le bouquin, on donne toutes les astuces pour pouvoir la reconnaître. Donc, admettons, vous êtes sûr de reconnaître une carotte. Moi, ce que j'aime bien chez la carotte, plus que la racine, qui est déjà très bonne, ça va être les fruits. Les fruits sont super bons. J'aime bien les travailler en dessert.
Puis elle a une odeur de carotte.
Et oui, la plante a une odeur de carotte.
La racine. Voilà.
Bien sûr. Quand on a reconnu la carotte grâce aux explications plus l'odeur, parce que l'odeur, effectivement, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, c'est important quand on découvre une plante, on va d'abord la regarder de loin. On va s'approcher gentiment, regarder les détails. On va la toucher, parce que la texture de la plante peut nous parler. Hein. Si on a des poils rigides ou des poils souples, c'est pas pareil. Donc, on va toucher la plante. Et on va également la sentir ensuite, parce que c'est un très bon critère de reconnaissance. L'odeur, d'ailleurs, on en parle sur le bouquin. À chaque fois, on parle de l'odeur des plantes. Donc, on va la sentir, effectivement, la carotte, sans la carotte. Toute la plante sans la carotte, pas que la racine. Sauf les fruits, j'ai envie de dire, justement, parce que les fruits, ils ont une odeur et une saveur qui va se rapprocher de la poire. Et ça, c'est intéressant. Donc, les fruits, quand ils ne sont pas encore bien mûrs, c'est-à-dire des fruits immatures qui sont verts, et le meilleur moment pour les ramasser, c'est quand ils vont commencer à brunir. Juste au tout début, ou dans le nid d'ailleurs, parce que sur les fruits de la carotte, l'infrutescence, c'est ce qui suit l'inflorescence. Souvent, on connaît l'inflorescence, après l'infrutescence, on n'en parle pas, mais bon, c'est la même chose. Donc, quand l'infrutescence arrive, elle va faire ce qu'on appelle un nid d'oiseau. Elle va se refermer sur elle-même en montant les rayons extérieurs, en les montant vers le haut. Et donc, on va avoir notre infrutescence qui va se fermer comme un petit nid. Donc là, quand nos graines commencent à peine à brunir, on va les cueillir. On va en faire des infusions. Alors, on peut en faire déjà de la tisane, hein, sans problème. Mais après, moi, j'ai travaillé en dessert, en infusion dans le lait ou dans l'eau, ou pour faire soit des gelées, soit des crèmes, de la panna cotta. Après, on peut faire plein de choses. Et on peut bien sûr les rajouter dans tous les plats salés qu'on veut. Hein. Si on veut les mettre dans des salades, ça va très bien. Enfin, moi, souvent, je reste sur le dessert, sur le côté poire qui est sympa. Et après, bon, les feuilles peuvent se manger également. Il n'y a pas de problème. On peut les rajouter dans la soupe. On peut en faire tout ce qu'on peut faire avec des feuilles, finalement. Et la racine va se manger comme de la carotte, bien sûr. Alors souvent, on va en prendre un petit peu moins que la carotte parce que c'est plus intense, c'est un petit peu plus fort en goût. Donc, on n'a pas besoin d'en prendre de grosses quantités. C'est bien quand ça fait un accompagnement de plat. Et dernière petite précision. Donc, sur la carotte, on est sur une plante bisannuelle. C'est-à-dire que l'automne de la première année et de l'automne pendant tout l'hiver même, on va pouvoir cueillir sa racine. Puisque là, la plante, la petite graine qui a germé, a laissé sortir ses feuilles. Ses feuilles ont pris plein d'énergie, en fait, du soleil en l'occurrence, l'ont retransmise à la racine. La racine s'est gonflée, la racine est devenue charnue. Donc, ça veut dire que la première année, on a la racine qui a son maximum de côté intéressant. Et la deuxième année, cette racine va redonner toute l'énergie qu'elle a captée l'année précédente, va la redonner à la tige florale, faire une fleur, faire des fruits et mourir. Donc, la première année, on ramasse la racine. La deuxième année, on ramasse les fruits.
Très bien. Est-ce qu'il y a des choses à dire, Cyril, sur le côté médicinal ou pas?
Bon, la carotte sauvage, c'est vrai qu'elle est plus intéressante, je dirais, au niveau culinaire, pour son côté un peu atypique. Mais au niveau médicinal, il y a l'huile essentielle des fruits de la carotte qui est intéressante, notamment pour son action bénéfique sur la peau. Tout ce qui est couperose, ce genre de choses. Donc, on va souvent la retrouver dans les crèmes cosmétiques. Et puis, on peut faire un macérat de racines de carottes sauvages. Donc là, en fait, il faut faire des lamelles avec fines à insérer dans de l'huile alimentaire ou cosmétique, à voir quel type de macérat on fait. Mais ça peut être peut-être plutôt cosmétique. Donc, on fait macérer. Ou alors, on peut faire un bain-marie aussi en une heure dans l'huile. Et donc, on fait une crème cosmétique de carottes sauvages dans laquelle on peut rajouter aussi de l'huile essentielle, justement, de carottes sauvages aussi. Et donc là, on peut faire différents mélanges, mais ce mélange est déjà très intéressant pour les problèmes de peau du quotidien.
Oui, la carotte tient sa réputation de donner bonne mine.
Oui, alors ça, c'est la carotte cultivée, en fait, qu'on retrouve souvent, mais la carotte sauvage peut être aussi utilisée, ouais.
Pour moyen mémotechnique, en tout cas, ça marche. Est-ce qu'on peut parler du sapin blanc? Parce que c'est un peu... Il est un peu emblématique quand même de nos montagnes.
Eh bien, c'est un conifère emblématique de nos montagnes, c'est clair. Donc, on va reconnaître notamment à ces aiguilles qui ont deux traits blancs, donc c'est les stomates en fait de la feuille, et qui ont une position en peigne, contrairement à son cousin l'épicéa qui a plutôt une position en brosse et des aiguilles un peu piquantes. Donc, c'est le sapin blanc pour le reconnaître. Et donc après. C'est un arbre qui peut vivre environ 500 ans, qui peut avoir des spécimens, notamment dans le Jura, on appelle ça des sapins présidents, qui sont vraiment des beaux individus, et qui vont composer vraiment des grandes forêts très sapinières. Après, au niveau de l'usage donc de la plante, ce qui est connu, c'est son bourgeon, enfin ce qu'on appelle son bourgeon, où on va plutôt cueillir les jeunes pousses finalement. Et donc là, on peut en faire pas mal de choses. On peut déjà en mettre dans les salades, on peut en faire des sirops, sirops alimentaires, sirops médicinaux pour les problèmes respiratoires. Il y a aussi l'huile essentielle de sapin qui est intéressante, qui va être assainissante, qui va être aussi utile pour les problèmes musculaires, articulaires. Que dire sur le sapin?
Est-ce qu'on le cuisine en dehors du sirop?
En dehors du sirop, en fait, on fait presque la même chose en faisant des gelées. C'est-à-dire, ok, c'est notre sirop, on va rajouter un peu d'agar-agar. Mettre moins de sucre souvent, hein, parce que pour le sirop, on met beaucoup de sucre pour la conservation. Mais là, voilà, on va le travailler en gelée. Et une gelée de sapin avec des pommes craquantes, des petits carrés de pommes craquantes noyées au milieu de notre gelée.
Ça a l'air
sympa. On peut faire des crèmes, encore une fois. C'est un petit peu comme finalement tout ce qui va être aromatique. On a tendance à les travailler un peu de la même manière, comme les fruits de la carotte. Voilà. Après, on fait une infusion, que ce soit du lait, de la crème, de l'eau, n'importe quoi en fait. Et on va pouvoir faire aussi des glaces, hein, je veux dire.
Ouais, l'idée, c'est souvent de faire infuser,
ouais.
En fait. Hein,
tout et après, on travaille le produit qu'on a fait infuser. Hein, mais bon, cela dit, les pousses de sapin, on peut très bien les mettre aussi dans la salade, ça, c'est parfait. Hein, ou dans quelques plats que ce soit. Bon, après, personnellement, je préfère les pousses d'épicéa. Mais bon, les pousses de sapin se mangent de la même manière, se travaillent de la même manière.
Très bien. Est-ce qu'on peut peut-être évoquer la gentiane jaune, qui est assez... assez connu pour tous ces usages, pour le coup, il y a deux choses à dire.
Ouais. Alors moi, je vais surtout parler de la gentiane, en fait. Donc ce que je fais, moi, avec la gentiane, ça va être du sirop. Alors les infusions, pas trop, c'est quand même très très fort, très très amer. Mais pourquoi pas, on pourrait en faire. Mais voilà, sirop et vin, moi, des vins de gentiane, je vais faire. Après, on pourrait faire aussi de la distillation. Mais bon, ça, c'est un peu plus complexe, c'est un peu moins à la portée de tout le monde. Voilà, c'est vrai qu'en sirop de gentiane ou en vin de gentiane, c'est particulier, c'est légèrement amer. Ça reste acceptable pour certaines personnes. Il y en a qui n'aiment pas du tout l'amertume. Donc, du coup, là, il ne faut pas aller chercher plus loin. Surtout la gentiane, c'est la plante, ou au moins une des plantes, en tout cas, les plus amères au monde, ouais, des végétaux mondiaux. Donc, elle est amère. Du coup, voilà, il y a certaines personnes qui ne vont pas forcément aimer ce goût-là. Mais voilà, moi, j'en fais essentiellement ça. Bon, c'est une... très bonne plante pour
oui, on se dit
aider
amère,
l'immunité.
Voilà. Surtout,
en plus, c'est les, ouais,
tonus amer.
C'est Cyril parler. Ouais.
Elle va être fortifiante, elle va être immunostimulante. Et donc, on va surtout utiliser son rhizome, en fait, sa racine. Moi, je l'utilise en infusion. Après, il faut vraiment en mettre peu. Mais elle a aussi un intérêt pour toute la sphère digestive. Donc, elle est connue comme pour ses vertus apéritives ou digestives. On peut la prendre en infusion et puis on peut aussi en faire des teintures mères. Donc, la macération dans l'alcool fort, finalement. Après, il y a différentes méthodes, hein, teinture mère, alcoolature.
Vous les expliquez dans le livre.
Oui, voilà, on en parle un petit peu les différences. Mais le principe, c'est en fait, de faire macérer dans de l'alcool et ensuite utiliser ça en gouttes. Et ça a des vertus, justement, quand on a besoin d'avoir un peu un coup de fouet ou quand on a une fatigue générale ou qu'on a des problèmes digestifs, voilà, ce genre de choses.
Ça va aider à lutter aussi contre certains virus,
ouais.
Évidemment, parce qu'on va renforcer son système immunitaire. Donc,
ouais.
Des fois, c'est pas mal.
Ouais,
si on en prend en prévention avant l'hiver.
Tout ça est disponible, facile d'accès et il faut juste apprendre à les connaître.
Ouais.
Il y a un usage que j'aime beaucoup, dont vous parlez dans votre livre, c'est l'usage un peu ludique en fait. Vous donnez des modes d'emploi quelque part pour faire des jeux, pour s'amuser aussi avec ces plantes-là. Est-ce qu'on peut en donner un petit exemple peut-être?
Oui, moi j'ai tout de suite l'exemple du mirliton. qui est un peu emblématique, en fait, c'est avec le sureau noir. Donc le sureau noir, c'est un arbuste qui va fabriquer, avoir un bois avec de la moelle à l'intérieur. Et donc notamment cette moelle est utilisée comme nichoir par les insectes, par de nombreux insectes. Et donc là, pour l'usage ludique, en fait, il suffit de découper un rameau avec une partie bien moelleuse qu'on évide. Donc ça va faire un rameau évidé. Donc on prend un fil de fer ou quelque chose pour enlever la moelle. Et donc avec ça, on fait une sorte de petite flûte, mais on va pas souffler dedans, mais on va chanter dedans. Donc on va faire une petite encoche. Il y a un embout où on va mettre une petite pellicule fine qui va vibrer finalement avec le, en chantant dans le mirliton. Et en faisant vibrer cette petite pellicule qu'on aura fixée, eh bien ça va faire un son. Et donc les enfants chantaient toutes sortes de mélodies dans leur mirliton.
Ça fait un peu comme un kazoo, non?
Voilà, ça a notre nom, mirliton, kazoo, ça peut avoir différents noms. Et donc c'est vraiment un petit instrument des campagnes qui est resté un petit peu encore connu par les animateurs, les éducateurs qui aiment bien fabriquer un petit instrument vert.
Donc on peut le faire chez soi aussi.
Voilà, c'est pas compliqué du tout, c'est sympathique.
Mais on donne le plan d'ailleurs sur le bouquin. Donc vous avez les dessins, vous avez tout pour faire. À partir du moment où vous trouvez finalement une tige creuse, parce que là c'est vrai qu'on parle du sureau, mais même ça pourrait être l'angélique aussi. Voilà. Ouais. Moi j'en avais fait avec l'angélique aussi. Et la pellicule fine, ça peut être par exemple une peau d'oignon. Ça suffit, la peau intérieure de l'oignon, pas la peau extérieure craquante. Hein. La peau intérieure de l'oignon, entre deux couches d'oignon, on a une peau toute fine, ça marche bien aussi.
Donc on peut faire chanter l'oignon.
Ouais, merci, on va faire chanter l'oignon.
Merci pour cet exemple.
Sinon, on parle de clarinette buissonnière avec le pissenlit. Parle aussi de faire des couronnes de fleurs. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Les enfants faisaient des colliers, des bracelets. Ouais.
Bien sûr, ces exemples joyeux, je vous remercie beaucoup, Lionel et Cyril, d'être venus nous présenter donc, votre guide des plantes sauvages de montagne. Et je ne sais pas
en montagne.
En tout cas, je ne sais pas vous qui nous écoutez, mais moi, il m'a donné très envie de poser le micro et de partir en montagne à la rencontre de toutes ces plantes que je n'avais pas encore identifiées dans tout leur potentiel.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Champ d'Action sur le site champdaction.org ainsi que sur les principales plateformes de podcast. Champ d'Action est le podcast de Terre Vivante, maison d'édition et centre écologique, qui se lit autant qu'il se visite. Pour être tenu au courant de la diffusion des prochains épisodes, suivez-nous sur les réseaux sociaux avec les mots-clés Champ d'Action Podcast. À bientôt !